Bouchard en parle, présenté par Matelas Dauphin et sa vente prix d'entrepôt. Payez le prix entrepôt sur tous nos matelas et payez en 12 versements, plus taxes payées, dans tous les matelas Dauphin.
7h42. Hey, j'adore! Quand on demande aux auditeurs de l'aide, puis ils nous répondent. J'aime ça. Parce qu'ici, autour de la table, évidemment, on a nos opinions, nos connaissances, mais honnêtement, c'est quand on peut élargir à la gang tout ça qu'on est capable d'en apprendre le plus. Dossier du lait. Attention, voici le mystère. Un peu comme Léo Delat autrefois. Comment ça se fait que le lait est vendu plus cher au Québec que partout ailleurs, quasiment dans le monde, et qu'on nous dit que les agriculteurs crèvent de faim? Il manque juste la petite c'est quoi dont l'effet sonore? Pourquoi? Ou un petit ding, petit... Il y avait une espèce d'effet sonore.
Musique d'ambiance. Hein?
Hey, les références de plusieurs années auparavant. Alors.
Ouais. Hey, les vieux, là. Ramène-nous en 2018. Voilà. Ben, non, mais la question est bonne, à vous.
Oui, vraiment.
C'est bon. Le lait, on l'a déjà fait ici, là. Je vous ai donné les prix, là. Les petites familles le savent, puis tout le monde le sait un peu, là. Regarde, c'est cher, OK? Plus cher qu'aux États-Unis qu'en Europe, partout. Or, là, il y a eu un nouvel accord que les États-Unis vont faire rentrer un peu plus de lait américain sur le marché. Puis là, grosse catastrophe. Et là, ils nous disent, on peut pas. Parce qu'on est déjà pauvres. On crève déjà de faim. Oh, attends un peu, là. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Le producteur dans sa ferme crève de faim, puis ses tablettes, c'est plus cher que partout ailleurs. Il se passe de quoi? Pas capable de répondre. Mais on a lancé l'appel à tous. Y a-t-il un fermier qui peut nous appeler? On va aller vous voir. On va envoyer. C'est Jean-Simon qui est allé. Bon matin. Alors, Jean-Simon a reçu un appel. On a eu plus qu'un, là. Hey, viens sur ma ferme. M'a-t-elle expliqué comment ça marche, moi? C'est un peu ça qu'on a eu. Jean-Simon, tu t'es rendu où?
J'allais à Saint-Victor-de-Beauce rencontrer un fermier qui s'appelle Fred Poulain, un jeune fermier de 30 ans, qui exploite sa ferme avec son père. Donc, eux, ils travaillent. Ben, c'est des journées fous, là. Ils se lèvent à 3h30 le matin, ils se couchent à 8h. Bon, c'est la vie de ferme. C'est la vie d'agriculteur qui est une vie extrêmement, extrêmement occupée.
C'est un producteur laitier.
Oui, exactement. Okay. Sa ferme s'appelle GPG. C'est une ferme moyenne, donc 110 têtes à peu près. Donc, on est dans la moyenne québécoise. Donc,
110 têtes, c'est à peu près maintenant la moyenne.
Oui, c'est ça. Okay. Puis, il explique déjà d'entrée de jeu, il dit, t'sais, au Québec, ça, c'est une ferme moyenne. Mais aux États-Unis, c'est pas du tout la même réalité. Ah ouais. C'est des troupeaux de 15 000, 20 000 bêtes. C'est gigantesque. Des terrains à perte de vue dans les États où est-ce qu'il y a beaucoup de...
Ici, une grosse ferme, ça doit être 2 000, peut-être?
Oui, c'est ça. Ça monte autour de 1 000 dans les quatre chiffres, mais pas bien plus que ça.
1 000?
Les plus grosses fermes, là, vraiment. Lui, il est dans la moyenne. Okay? Ça vous donne une idée. Là. Dans
avec
la moyenne
100.
Des quotas. Okay, avec 110. Okay? Okay.
Oui.
Donc ça, c'est la grosseur de sa ferme. Donc dès le début, la question qui nous préoccupe, c'est comment ça? Moi, j'achète mon litre de lait à certains prix à l'épicerie, mais toi, tu le vends combien? Le prix minimum qu'on achète à un producteur de lait au Québec, c'est 68 cents le litre. Lui, il réussit à dégager une marge un peu plus élevée parce que, dans le fond, il y a une espèce de quota de protéines puis de matière grasse dans le lait. Donc, plus tu as de protéines, plus tu as de matière grasse dans ton lait, plus tu peux le vendre cher. Donc, il réussit à le vendre 74 cents, OK?
Mais le litre?
Le litre. À combien il se ramasse sur les tablettes?
Tu le vends à ça, 74 cents le litre?
On le vend à 74 et 76 cents ici, puis il se ramasse à 1,89 sur la tablette.
Okay.
Les agriculteurs américains, présentement, reçoivent 35 cents du litre de subvention, mais ils ont 50 cents du litre de base. Ça fait que si on se comprend, les Américains reçoivent 85 cents pour le litre de lait. Quand la LENA s'est signée, l'action s'est plutôt augmentée de 2 piastres. C'est pas pour rien. Eux autres, ils sont capables de faire entrer du lait américain à 50 cents l'hectolitre, à 50 piastres l'hectolitre, donc 50 cents du litre. Le marge de profit est encore 24 cents plus grande que sur la mienne. Tu comprends?
Ouais.
C'est un peu ça que je dis qu'on ne joue pas dans le même game. Nous autres, on a des normes. On a les pro-actions, on a les programmes canadiens, on a les programmes québécois, on a toutes les normes qu'on suit, qu'on régit. Sans hormones, on peut pas prendre de BST, on peut pas. À un moment donné, on va pouvoir mettre les pommes avec les pommes, les oranges avec les oranges. C'est dur de comparer les deux parce qu'on ne joue pas sur le même terrain.
Faut comprendre que
c'est bon, ça,
au Québec, c'est la gestion de l'offre. Donc, les producteurs laitiers payent des quotas pour avoir le droit de produire une certaine quantité. Aux États-Unis, c'est l'inverse. On paie les producteurs pour faire davantage de lait, donc 35 cents du litre. Autrement dit, le producteur américain fait plus de cash par litre que le producteur québécois et le lait, sur les tablettes américaines, est vendu moins cher. Donc, à quelque part entre les deux...
OK, le producteur américain fait plus de cash et le lait est vendu moins cher.
Voilà.
Alors qu'ici, c'est l'inverse. C'est bon, ça. Je retiens 74 cents. Mais il y en a qui le vendent 68 cents.
Oui, c'est le prix minimum.
Et sur les tablettes, 1,89. Mais la meilleure phrase, c'est quand l'accord a été signé, l'action de Saputo a monté. Saputo, à gros pur.
Ça va revenir, vous allez voir.
OK, on va en reparler.
Oui, ça va revenir.
Pas trop vite, là. Alors, ça va être quoi l'effet donc du nouvel accord là, à court terme là, sur lui, là, sur sa business, sur sa ferme?
Selon lui, si c'était seulement la nouvelle mouture de l'Alena, ce serait pas si pire que ça. Parce que bon, c'est 3,59% du marché qu'on laisse aux Américains.
Oui.
Le problème, c'est qu'avant ça, tu as eu l'accord avec l'Union européenne et tu as eu aussi le partenariat transpacifique. Ce qui fait maintenant que tu es à 8,79% du marché qui a ouvert une brèche finalement dans la gestion de l'œuf québécoise. Et c'est ça le problème, c'est que pour les producteurs, selon lui, ça va créer une pression sur le marché.
Ça crée une pression sur notre marché. En mettant une pression sur notre marché, parce qu'il faut se rappeler qu'ils ont signé avec l'Union européenne aussi, que là, je pense que c'est 2 ans, ouais. Ils rentrent 17 500 tonnes de fromage de plus par année ici. On n'en mange pas plus. Là. Ça crée une pression sur notre marché. Quand il y a des fermes qui vendent, le quota est racheté, donc on produit le même litre de lait. C'est l'offre et la demande. C'est la même chose, partout. Plus d'offres sur le marché, ça crée une pression sur le marché, sur les prix à la baisse. Donc, le prix à la baisse, il baisse à la base. Il baisse pour moi. Il baisse pas l'épicerie. Les 17 000 tonnes de fromage qui ont rentré, tu payes pas ton fromage moins cher, je suis sûr.
Non.
C'est ça.
Donc, autrement dit, toi, tu vas vendre ton lait moins cher, moi, je vais le payer le même prix, donc tu vas faire moins d'argent, puis moi, je vais payer la même affaire.
Tu vas payer la même chose. Ça, c'est prouvé. En Australie, là, ils l'ont fait. Là. Le lait n'a pas baissé aux consommateurs. Il a baissé aux producteurs, ils sont tous en train de crever de faim. Ils ont libéralisé le marché. Le problème se situe dans la transformation. Comme dans tout, comme dans le bœuf, comme dans le... C'est comme dans tout. Moi, j'aurais pas plus cher. Vous allez boire du lait ou manger des produits qui n'ont pas les mêmes normes de salubrité et de production que nous autres. Puis en mettant la pression sur le marché, en rentrant plus de diafiltrés, en rentrant plus de yogourt, en rentrant plus de produits qui se transforment comme ça, ça met une pression sur notre marché, donc nos prix baissent. À la base. À l'épicerie, il n'y en a pas de différence.
Ils vont continuer à faire la même marge de profit.
Ils vont continuer à faire la même marge de profit. Et plus, ils payent moins cher. Notre coût de production, si je ne me trompe pas, est aux alentours de 67 cents du litre. De base.
OK.
Tu comprends-tu que le taux de le coût de base qu'ils nous donnent présentement est à 68? Là?
Tu fais une cent le litre?
Quand tout va bien.
Quand tout va bien.
Ouais. Alors, c'est peut-être ça qu'on ignorait, là. Parce que moi, j'ai toujours pensé que la concurrence, c'est pas mauvais. Mais lui, ce qu'il nous dit, c'est que l'industrie est déjà à son niveau à lui, moribonde.
Oui.
C'est déjà difficile. Par contre, il y en a d'autres qui s'en mettent plein poche, là.
Exactement.
Quelque part dans la chaîne. Mais lui, à son niveau à lui, c'est déjà fragile.
Puis il explique que ça coûte 67 cents produire un litre de lait au Québec compte tenu des normes. Et avec le coût de base, c'est 68 cents. Vous voyez bien vite que c'est pas facile de se mettre riche. D'ailleurs, ça fait combien un producteur laitier au Québec?
Ouais.
Présentement, là, il rentre dans boîte à mal, il rentre par semaine minimum 2 en canne ferme. Laitière. Qui rentre, ça veut dire que c'est dans notre secteur. Parce qu'il n'envoie pas les fermes qui se vendent ici. Ben, mettons, l'Abitibi, je ne reçois pas.
Qui se fait vendre.
Qui se fait vendre. Les gars, ils débarrassent.
Ouais.
Puis des gens qui ont de la relève. Des troupeaux élites du Québec. Des gens qui ont de la relève, des gens qui arrivent pas, c'est pas viable. Il y en a une la semaine passée, puis il y en a une la semaine prochaine. C'est des troupeaux élites.
C'est qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il y a trop de travail.
Une ferme comme nous autres présentement, moi, ça me dérange pas de sortir mes chiffres. Je suis quand même assez à l'aise avec ça. Une ferme comme nous autres présentement, en perte de revenus net, c'est entre 5 et 6 500 par mois.
Tu perds 6 500 piastres par mois?
Oui. Ça fait 2 ans qu'on perd entre 4 500 et 6 500 piastres par mois. Tu sais, cette année, on a eu un problème avec notre 4 roues. Le 4 roues passe au feu. On n'avait pas de liquidité pour s'acheter un 4 roues. On parle de 8 500 pièces. Mais on n'a pas de liquidité.
Bon, alors, ça détruit peut-être des mythes un peu, là. Mais je continue à dire, moi, je maintiens mon point. Puis là, ça va être justement la prochaine question. Moi, je veux bien penser aux producteurs laitiers. Puis ce qu'ils nous racontent là, moi, ça m'allume de quoi? Ça n'a comme pas de bon sens. En même temps, les familles québécoises paient leur lait trop cher. C'est pour ça, moi, entre autres, que je veux qu'il y ait de la concurrence. On paye trop cher. Alors, comment faire baisser les prix, là? Puis que lui puisse garder sa ferme, là. Moi, je veux qu'il fasse de l'argent, lui, avec, puis qu'il continue à prendre la relève de son père, etc. Mais là...
Visiblement, Fred, il dit, moi, j'aimerais bien ça, mais j'ai pas vraiment de contrôle. Il se passe quelque chose. Une fois que j'ai vendu mon litre de lait, c'est par la suite que les coûts augmentent.
Exact.
C'est dur à virer de bord, là. Pour le faire, pour que ça baisse aux consommateurs, genre... C'est le système, nous autres, on y touche pas. Ils partent d'ici, nous autres, ils nous mettent des normes pour faire un produit de qualité. Quand il est parti d'ici, j'ai mon prix. Puis après ça, elle va où, là? Moi, j'en ai pas, là. J'ai pas de ristourne, j'ai rien. Elle va où? C'est le transformateur, là. Il y a pas d'autre intermédiaire que ça. Il y a deux gros joueurs, là. C'est Agropeur, Saputo. Ils ont pas le monopole, mais ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent, là. Mais regarde le marge de profit, là.
Mm-hmm.
Il y a là le profit. Eux autres, c'est une business, ils sont là pour faire de l'argent comme moi, là. Ils vont moins cher. Comme tout le monde fait. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire baisser le prix aux consommateurs? Ça serait le fun de parler avec les dirigeants d'un gros peu.
Ouais. Alors, c'est drôle, hein? Dans le débat, ils ont comme pas été là, eux autres. Il y en a eu un débat quand on a signé l'ALENA, là. Le débat, il s'est comme fait, OK, il y a plein de gens comme moi qui défendent les consommateurs québécois, puis on veut que les prix baissent, tout ça. Puis là, s'il y a de la concurrence américaine, ben on se dit, ce sera pas si mauvais que ça. Puis d'un côté, t'as les producteurs laitiers qui disent, ça n'a pas de bon sens, on va se battre. Mais eux autres, j'ai l'impression qu'on visait peut-être pas à bonne place.
Ouais.
J'ai
Non, clairement, parce que c'est pas ces agriculteurs-là, je pense, qui méritent de recevoir tout ce poids-là. Là.
Oh non, pas du tout. Puis ce que je trouve intéressant, il le dit, tu sais, de peut-être reformer la gestion de l'offre. Quand on parle de problématiques, c'est peut-être que pour le consommateur et pour le producteur, il faudrait une gestion de l'offre 2.0. Parce que qualité norme, par exemple, pour ton lait, moi, je trouve ça extrêmement bien qu'on ait ça au Canada.
Si on veut ça,
et
ben oui.
Autre chose que ça amène, nous, on est imposé, puis on a à faire avec des normes aussi pour le bien-être animal, beaucoup plus qu'aux États-Unis.
Tant mieux.
Où sont entassés, puis on veut production.
Ouais.
Pour ça,
si on ne veut pas renoncer,
à ça. Mais est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'on peut sanctionner ceux qui doivent être sanctionnés ou remettre l'argent dans les poches des bons?
J'étais ouvert aux histoires de l'ALENA parce que je n'aime pas les monopoles. Donc moi, je me disais, on rentre un peu, on ouvre des portes à la frontière pour entrer de la concurrence américaine. Les monopoles, on le voit ce que ça fait. Hydro-Québec, la SAQ, c'est jamais bon. C'est pas bon, les monopoles. Mais on n'a peut-être pas dénoncé le bon monopole. Moi, tu sais, je parlais toujours du monopole des cultivateurs, des agriculteurs, avec la gestion de l'offre, ils ont un genre de monopole. Le monopole est peut-être plus dans ceux qui prennent le lait d'un ferme et qui l'amènent aux épiceries. Là.
Mm-hmm.
Eux autres, ils sont comme juste deux, si j'ai bien compris. Ils ont comme avantage à vendre ce lait-là. Là. Aucun des deux va baisser le prix. Là. Ils les vendent.
C'est
un bien essentiel, le lait. Tout va bien. Ils ont accès aux tablettes. Je sais pas si ça marche comme la bière puis tout. Des fois, eux autres, ils ont des ristournes, en Wingo dans les tablettes, puis ça, je sais pas, là. Pis peut-être que les autres joueurs peuvent pas rentrer ces tablettes.
Oui, puis je pense que c'est évident avec le témoignage de l'agriculteur à qui on a parlé, qui lutte pas à armes égales avec les Américains.
Exact.
On parle du nombre de vaches, on parle aussi des subventions dont les agriculteurs bénéficient. Et pour le fun, parce que je me souvenais que dans la saison prochaine de L'amour est dans le pré, il y a une candidate qui était décrite comme propriétaire d'une des plus grosses fermes laitières au Québec. Je suis allée voir pour le fun, c'est quoi le nombre de vaches pour une des plus grosses fermes laitières? C'est 1047 vaches. Et je suis allée voir des données plus récentes d'un article de Radio-Canada qui nomme une ferme laitière qui va probablement devenir la plus grosse ferme laitière au Québec d'ici 10 ans parce que leur cheptel a doublé. Il est passé de 599 à 1420 vaches. Ça, c'est la plus grosse ferme laitière au Québec.
Aux
1400
États-Unis,
vaches.
Non, t'as du 15-20 000, facilement. Du 15-20 000. C'est hyper industrialisé. Puis, il l'expliquait, là, c'est le piquage aux hormones, le BST que tu peux pas utiliser au Québec. Fait que tu paies très, très cher parce que les normes se resserrent constamment. Ce qui fait en sorte, comme il l'expliquait, que le coût de production a augmenté. Puis il dit également, à cause des brèches dans la gestion de l'offre, il dit, moi, mettons, il y a 10 ans, je pouvais vendre mon litre de lait 84 cents. Il dit, maintenant, je le vends 74 cents. Avez-vous vu une baisse à l'épicerie?
Non, ben non, justement, mais ça...
Tu payes tout le temps la même affaire.
Tu te souviens-tu, Jean-Simon, de ton reportage sur
le des Appalaches? Oui.
C'était un éleveur de bœuf, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, bœuf pour la viande.
La viande, au moment où on a fait ça, je sais que ça change un peu. La viande était super chère. Le bœuf, c'était rendu l'enfer dans les épiceries. Puis lui, il nous avait fait venir sur le terrain pour dire, hey! Moi, j'ai moins pour ma viande.
C'est ça.
Ces temps-ci, on m'en donne moins. En quelque part, entre les deux, il se passe de quoi, là? Il dit, c'est pas moi. Les gens s'en prennent tous aux producteurs de bœuf. Ouais, vous devez être un gros dur ces temps-ci. On paye le bœuf, ça n'a pas de bon sens. Non, non moins.
Ben, on avait parlé aussi des fromages ici dans Bouchard en parle, puis on disait que la marge de profit est extrêmement élevée en épicerie, tandis que ceux qui le produisent, ils ont 2-3 sous, là.
Lui, il avait plus d'argent que ça avant.
Oui. Donc, ça baisse.
Il y avait plus de cash avant.
Et là, il y a peur que ça baisse encore parce qu'il y a du lait à 50 sous, le litre, théoriquement, qui rentre des États-Unis. Maintenant, ce qui m'a surpris, c'est est-ce que, tu sais, les agriculteurs, tout le temps, ils veulent absolument garder la gestion de l'offre. Il y a quand même une ouverture à changer le système. Sauf que vous allez voir, c'est lourd, puis il faudrait changer pas mal de paramètres pour arriver à quelque chose.
Moi, j'ai une ouverture à ce que ça soit libéralisé avec les mêmes normes, puis avec les subventions qui viennent avec. On peut pas vendre du lait à 50 cents l'hectolitre quand il en coûte 67 à produire. Libéralisons-le, le marché. On a un produit qui est de meilleure qualité. Il y a sûrement des gens qui veulent en boire de ce produit-là aux États-Unis. On va y aller, nous autres aussi, par exemple. Mais donnez-nous les subventions qui viennent avec à la hauteur de qu'est-ce qu'ils ont de l'autre bord. Fait qu'au lieu de payer votre lait plus cher sur la tablette, vous allez subventionner par vos impôts. Si c'est ça que le monde veut.
Ouais. Ou on libéralise. Moi, j'aimerais autant subventionner nos producteurs laitiers ici si les Américains font pareil. Idéalement, ce serait pas de subvention nulle part. Là. Ça, c'est mon point de vue à moi. Mais là, eux autres, ils le font. C'est vrai qu'ils le font. Aux États-Unis, c'est un fait. Là. L'agriculture est subventionnée. Alors, si on le fait aussi, on réussit à vendre là-bas. Mais là, on subventionne directement le producteur laitier, pas le transformateur, l'épicier, puis la personne. Je sais pas si tu comprends. Là.
Oui.
En donner directement à lui pour qu'il puisse vendre son lait aux États-Unis, parce que là-bas, c'est aussi subventionné. Là, il y a une certaine logique, là. Mais bref, il va falloir revoir le système et c'est pas eux qui sont les grands gagnants du fait qu'on paye notre lait le plus cher.
Et en passant, lui, j'ai demandé ce qu'il dit, je paye 5 000, 6 000 piastres par mois, comment tu fais pour survivre? C'est parce qu'il y a des sidelines, parce qu'il y a une petite boucherie, il y a une petite érablière. Dit, juste l'industrie laitière de même, il dit d'abord, t'as pas de capitaux, t'as pas de liquidité, tu roules à perte. Tu roules à perte systématiquement, t'es sur la marge de crédit. Fait que c'est pas juste lui.
Et à ce sujet-là, là, si ça vous intéresse, il y a un article intéressant dans le Journal de Québec ce matin qui parle d'une ferme laitière qui, pour justement affronter la concurrence qui s'en vient avec les États-Unis via le nouvel accord, eux autres, ils ont eu les moyens de le faire. Ils ont investi 20 millions de dollars dans la productivité. Achat de quotas, achat de machinerie, puis tout ça. Tant mieux pour eux autres, ils ont eu les moyens de le faire. Mais quand t'entends que t'as des fermes qui perdent 6 000 $ par mois, pensez-vous qu'ils ont 20 millions à mettre en investissement pour éventuellement essayer de contrer cette concurrence-là qui est pas tellement juste? C'est pas toutes les fermes qui ont la même réalité.
Exact. Merci, Jean-Simon.
Plaisir.
Il y en a d'autres. C'est 25226. Il y a des gens qui... on adore ça, aller sur le terrain, voir votre réalité. Écrivez-nous. 758, courte pause.
L'avant-match avec Dan Pou. Dès 18h au FM 93.
Vous savez que les examens de radiologie générale sont maintenant couverts par la RAMQ. Alors, ça vaut la peine de magasiner votre clinique comme il faut pour aller faire ces examens-là. On parle de radiologie générale, mais c'est aussi bon pour la mammographie. Allez chez Radiologie Mayou dans nos tout nouveaux locaux situés au complexe Synase au 1825 boulevard Henri Bourassa, juste en face de l'hôpital de l'Enfant Jésus. Si vous êtes déjà allé chez Radiologie Mayou par le passé, vous allez voir, ce sont les mêmes services, la même équipe, les mêmes personnes que vous connaissez et c'est toujours la meilleure expérience patient. C'est sans rendez-vous pour la Radiologie générale. Tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer vos prescriptions en ligne sur notre site 100% sécurisé, radiologiemayou.com.
Si vous avez le goût d'un vrai bon burger, gâtez-vous avec ceux de chez Ashton. Fait de vrai bœuf pur à 100% et jamais congelé, de pain frais et de légumes bien croquants. Il n'y a pas plus savoureux que nos burgers. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai.
Chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, quand on nous demande si les pneus d'hiver sont inclus, la réponse est oui. Quand on nous demande si 39 $ par semaine, c'est bien le prix de la Micra 2018 en location sur 60 mois, la réponse est oui! Quand on nous demande si on peut combiner l'offre à 39 $ par semaine pour la Micra et avoir en plus les pneus d'hiver sans frais, la réponse est encore oui! C'est pas compliqué! Durant la grande liquidation en prolongation, on passe notre temps à dire oui!
Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan,
oui!
C'est le temps de changer.
Pour votre entreprise de déneigement, ça prend du solide. Comme les chargeuses compactes sur pneus de toute nouvelle génération Case Construction, disponibles chez Longus. Elles assurent force et puissance inégalées, de même que la vitesse de déplacement la plus rapide de l'industrie. De plus, grâce à ses performances supérieures, ayez l'esprit tranquille durant toute la saison hivernale. Communiquez dès maintenant avec Longus, votre concessionnaire Case Construction au Québec, ou visitez terrapro.ca et devenez le maître du déneigement.
C'est l'automne. Protégez votre véhicule contre la rouille dès maintenant. Prenez rendez-vous sur antirouille.com. Antirouille métropolitain. Grouille avant que ça rouille.
Je m'appelle Marie-Ève Garneau et je suis avec ma sœur Valérie du groupe Garneau Thanatologue.
Nous sommes très fiers de vous inviter aux portes ouvertes de notre nouveau complexe Blais-Gilbert et Turgeon.
Le 21 octobre, venez nous rencontrer et voir par vous-même le fruit de notre travail.
Ce nouveau complexe est moderne, spacieux et va nous permettre de mieux vous accompagner au gré des nouvelles tendances.
Nos portes ouvertes le 21 octobre de 10h à 16h au 6100 Wilfrid Carrier, voisin de Kia Lévis.
Le groupe Garneau Thanatologue, là pour vous.
On écoute maintenant le groupe légendaire Les Concessionnaires.
On offre un beau gros bonnet à nos amis Coupé Berline. Aillons jolis sur la Civic jusqu'à la fin du mois.
Quel grand succès en hommage à la Honda Civic au sommet des palmarès depuis plus de 20 ans. J'en profite pour vous rappeler que c'est votre dernière chance de vous prévaloir du bonnet Civic de 750 $ et du taux à la location 48 mois de 0,99. Détails sur hondaquebec.ca.
Jusqu'à la fin du mois.
Économisez plus chez Shell. En glissant simplement votre carte Air Miles, obtenez un rabais de 3 cents le litre d'essence. Détails dans les stations Shell participantes. Profitez-en.
Les sports, une présentation de Saint-Hubert qui vous offre le Familial 4. Deux cuisses, deux poitrines avec tous les accompagnements à 29,95 au comptoir et au service à l'auto et à 33,95 en livraison.
8h01, je vous parle de Jean-Maurice Vézina, mon planificateur financier. Vous avez des questions sur votre retraite, sur l'univers de la finance, mais... Vous avez deux excuses. Les mêmes que moi, j'imagine? Pas le temps, je connais pas ça. Moi, je les ai, là. C'est vrai que je connais pas trop ça, mais j'ai pas trop le temps, comme vous. Mais j'ai pris une décision payante, voilà plus de 10 ans. Choisir Jean-Maurice Vézina comme planificateur financier. Garde l'hypothèque, les assurances. Je fais tout à même place. Alors, j'en sauve du temps avec lui. Puis, je pose mes questions. Jean-Maurice a des stratégies gagnantes, sans pression. Je choisis ce qui me plaît là-dedans. C'est payant. Faites confiance à Jean-Maurice Vézina. Groupe Investor, 681-4357.
Pour communiquer avec notre studio, texto 25-226. FM 93. Ça me parle.
Ça me parle de ce qui m'intéresse, ce qui se passe dans ma ville. 93. Ça me parle avec Sylvain Bouchard, Doc Mailloux, José Arsenault, Myriam Segal, Luc Lavoie, Éric Duhem, Dan Pou, Paul-Raphaël Charon, Marc Boilard.
93.
C'est mes enjeux, mes intérêts, ma vie. Ça vient me chercher, ça m'interpelle. Ça me parle.
FM 93. Ça me parle.
Les actualités, une présentation de Calinette qui célèbre ses 25 ans avec 25 voyages à gagner. Vous êtes client, vous avez votre chance de gagner.
Sylvain Bouchard,
FM 93.
93. Jusqu'à 9h30, vous écoutez
Bouchard en parle.
Bouchard en parle.
8h03, 20, on commence avec le trafic, ça brasse. Ouais. Matin. Les ponts, comment ça va?
C'est très, très, très long sur la rive sud pour accéder à la rive nord parce qu'on a un accident à la sortie du pont de Québec sur la rive nord, là, juste en sortant du pont. Ça bloque la voie de droite. Alors, ça refoule pas mal sur la rive sud. Là, ça a des effets un petit peu partout. Sur la 20, les files d'attente sont extrêmement longues. D'un côté, ça commence avant la raffinerie. Puis de l'autre côté, c'est pratiquement la route Lagueux. Alors, ça vous donne juste une petite idée. Puis sur la rive nord, ce sont les ralentissements habituels. Henri IV, ça commence à ralentir à Sainte-Geneviève. Capitale-Ouest à Seigneurial. Laurentienne à Georges-Muir. Charest-Est à partir de la route 138, le boulevard Amel à Saint-Augustin. Et Capitale direction Est également de Saint-Jacques jusqu'à Laurentienne.
La circulation présentée par la grande liquidation en prolongation de Paquet Nissan. Louez le robuste Titan sur 24 mois à 99 $ par semaine. Chez Paquet Nissan à Lévis.
La DPJ est encore condamnée pour avoir abandonné une enfant au sein d'une famille toxique et dysfonctionnelle durant 6 ans. La Cour du Québec a jugé que la DPJ a été coupable de négligence institutionnelle. Le Soleil avance que la situation de la petite était déjà dans un processus d'enquête, mais que celui-ci s'étirait. La juge Marie-Josée Ménard a déjà sanctionné la DPJ dans le passé. Elle a affirmé que cette situation est un échec lamentable. Le maire de Québec dénonce le parti de dignitaires qui est maintenant l'Organisation internationale de la francophonie. Le Journal de Québec écrit qu'il se dit insatisfait de la gestion de l'organisme dirigé par Michaël Jean depuis 2005 et souhaiterait voir d'autres personnes gérer l'OIF. Et finalement, François Legault dévoilera son premier conseil des ministres de la CAQ le 18 octobre prochain. Le cabinet du premier ministre désigné a confirmé que son équipe sera paritaire.
Au baseball, les Dodgers de Los Angeles dans la nationale et les Astros de Houston dans l'américaine se sont qualifiés hier pour les séries de championnat. Notons que les Red Sox ont démoli les Yankees à New York 16-1 hier. Au tennis, Denis Shapovalov s'est incliné cette nuit en première ronde du tournoi de Shanghai. Et à la boxe, rappelons que l'ancien champion canadien des poids lourds, Patrice Lheureux, est décédé subitement dans la nuit de dimanche à lundi. Il avait 47 ans.
Il fait noir ce matin à Québec. C'est de la pluie et faible et c'est intermittent comme ça jusqu'à ce soir avec un maximum de 21 degrés. Ça se poursuit jusqu'à jeudi inclusivement pour la pluie. Par contre, pour l'instant, de vendredi à dimanche, on aurait un beau week-end sous le soleil. À Québec, il fait 8.
La météo, une présentation de Volvo de Québec. Retrouvez le bonheur de conduire à bord d'une Volvo XC90, le VUS le plus primé de l'histoire, à un taux annuel de 2,9%. Détails chez Volvo de Québec.
FM 93, ça me parle.
8h05, une manifestation contre le racisme à Montréal en fin de semaine a beaucoup fait jaser. J'y étais.
Hein? Oui. T'étais là?
J'étais à Montréal en fin de semaine. J'étais dans un resto du centre-ville pendant la manif. Il y avait beaucoup de monde, honnêtement. Des milliers de personnes. Et,
ben oui.
Honnêtement, j'étais en train de manger, mais j'aurais pu y aller. Moi, je trouve que le racisme, c'est de quoi de dégoûtant. Vous savez que je suis un amateur d'histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale. Alors, si on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, on sait à quel point le racisme a pu pousser les hommes à faire des massacres épouvantables. Sauf que, mettons que j'aurais été là sur le trottoir, ben j'aurais pu y aller, marcher contre le racisme. C'est très noble. L'affaire, c'est que j'ai vu des pancartes, plus qu'une, là, contre François Legault, et la CAQ. On a même comparé la CAQ au Ku Klux Klan sur certaines pancartes. Là, attendez, là. Manifester contre la CAQ, vous avez le droit. On est en démocratie, même s'ils viennent juste d'être élus. Quelqu'un peut dire, moi, j'aime pas la CAQ, je descends dans la rue et je passe mon message. Mais là, c'est une manif contre le racisme Et on manifeste aussi contre François Legault et la CAQ. J'avoue que j'ai pas trop compris. On va essayer de comprendre. On va aller jaser avec la porte-parole de la manifestation, donc anti-racisme de dimanche. C'est Mme Safa Chebbi. Mme Chebbi, bon matin.
Oui, bonjour.
Alors, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un débordement? Comment vous interprétez le fait qu'on a beaucoup parlé dans les pancartes, dans les messages de la CAQ et de François Legault, dans une manif contre le racisme? Qu'est-ce que ça venait faire là?
En fait, la manifestation, on l'a déjà organisée avant même les résultats des élections. Donc, c'était contre le racisme de façon générale. Mais bien évidemment, après que la CAQ a pris le pouvoir, en fait, elle a gagné les élections en majorité parlementaire. Et surtout, lorsque, avec la première, juste, ça fait même pas 48 heures, elle a commencé à annoncer des priorités qui sont comme le fait de bannir les signes religieux et de congédier des personnes. Ça, on considère ça, c'est un projet de loi raciste.
En quoi donc, c'est raciste? Toutes les
En quoi c'est raciste? Oui. Parce qu'en fait, ce projet de loi, ça cible certaines personnes. Ça cible les personnes comme les musulmans, les juifs et les sikhs qui expriment leur religion de façon différente, ça c'est sûr. Et aussi, ils décident de leur retirer des droits. Donc c'est ça le racisme, c'est vraiment quand on commence vraiment à cibler des personnes et sous prétexte de neutralité ou d'égalité, vraiment on les cible et on essaye de leur priver des droits et d'avoir accès vraiment à le même droit que les autres.
Mais les juifs, les musulmans, les sikhs ou les catholiques, les chrétiens, ce ne sont pas des races, Madame Chebbi. Ce ne sont pas des races, ce sont des religions. Le projet de loi de la CAQ porte sur des religions et non pas sur des races.
Bon, là, en fait, peut-être on revient à la définition des races.
Ben oui.
Les races, je pense que c'est ça, parce que comme vous avez déjà parlé au début, c'est vrai que les races au début, en fait, c'était des races biologiques. On a au niveau du racisme et les races biologiques, ça a été même justifié à travers des études scientifiques pour prouver qu'il y a des races plus supérieures que d'autres et tout. Ça, c'est vrai, c'est la première version du racisme. Ça n'a pas fonctionné. On a vu le désastre
exact,
qu'il a créé ben oui. au niveau de la Deuxième Guerre mondiale.
Exact.
Mais ce n'est plus crédible de continuer à cette version
mais
de racisme,
d'accord.
Parce que le racisme se transforme.
Mais là, c'est parce qu'on peut être musulman ça. Noir, blanc, on peut être de différentes races. Les musulmans, ce n'est pas une race. Donc, si vous dites le projet de loi de la CAQ est raciste, je ne comprends pas.
Je vais continuer comment après, parce qu'au début, c'est vrai, il y avait les races, comme on dit, les races biologiques, mais par contre, après, c'est devenu comme le racisme culturel, qui est bien évidemment systémique. Le racisme culturel, c'est que tu crées une sorte d'hierarchie entre des cultures. Et là, tu vas dire qu'il y a cette culture qui est vraiment la plus inclusive, je sais pas quoi. Il y a d'autres qui sont non intégrables, qui sont non civilisés, qui vont tout faire, et même s'ils vont tout faire, ils sont à la base, ils sont comme ça, ils sont non intégrables. Et c'est ça ce qu'on est en train de faire avec les musulmans. Les races, c'est une construction sociologique qu'on fait avec le temps, avec des jugements, avec des stéréotypes qu'on crée autour d'un groupe de personnes. Et on continue à le faire. Aujourd'hui, c'est la même chose, en fait. Avec une loi, on dit que ces personnes, en fait, ils sont pas neutres. On limite leur identité à une seule identité qui est religieuse. Et ça, c'est problématique. Ces personnes, ils sont des compétences. Je pense qu'il n'y a pas un autre critère vraiment sur lequel on peut se baser pour congédier des personnes que les compétences. Pourquoi on fait ça, en fait? Est-ce qu'on veut juste cibler ces personnes?
Si, là, vous pourriez avoir raison, je comprends. Vous dites que ce n'est pas une question de race, ça peut être une question de culture parce qu'on cible des gens. J'entends votre point. Et là, on pourrait dire que la CAQ est fautive si le règlement ne portait, par exemple, que sur le voile islamique. Mais moi, j'ai lu le programme de la CAQ. D'ailleurs, vous savez que les Québécois ont voté pour ça. Ça porte sur les signes religieux, que ce soit sikh, que ce soit hindou, que ce soit musulman ou chrétien. Donc, où est le racisme là-dedans, puisque le projet de loi vise tous les signes religieux? Tu sais, vous me parlez tantôt de cibler une culture ou en mépriser une ou en brimer une par rapport à une autre. Mais il n'y a pas ça dans le projet de loi de la CAQ. C'est tous les signes religieux qui sont interdits. Alors, où est le racisme?
En fait, c'est ça aussi le problème. C'est que dans l'apparence, on fait, ça donne l'impression que c'est neutre, c'est égalitaire pour tout le monde. C'est pas le cas. Là, il y a certaines religions qui s'expriment autrement. Et si on veut construire une société qui est capable vraiment d'inclure des personnes et de permettre, par exemple, si on prend l'exemple des enseignants, pourquoi en fait, c'est quoi la nécessité de mettre en place cette loi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu vraiment un réel problème autour de ça? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont jugé ou qui ont enseigné une enseignante qui a essayé de convertir? Il n'y a aucune plainte qui a été déposée dans ce sens. Donc pour moi, c'est un faux problème qui n'existe pas. On essaye de le créer, de l'alimenter. Et aussi de renforcer un clivage au sein de la société. Vraiment, cette loi aura un impact désastreux sur le climat social et la paix sociale de ce pays.
Mais on va en parler des impacts. Je trouve ça intéressant de parler des impacts. Mais là, vous avouez avec moi qu'on n'est plus dans le racisme. Comparer la CAQ au Ku Klux Klan, là, comme on a vu en fin de semaine, ça, c'est pas correct. Là. Vous pouvez au moins dénoncer ces débordements-là. Vous savez c'est quoi le Ku Klux Klan, à quel point c'est terrible. On n'est pas devant ça. Là. On est devant une mesure. Vous avez le droit de vous opposer à ça, mais ce n'est pas du racisme, la CAQ. François Legault n'est pas raciste.
Non, je pense que ce n'est pas les individus qui comptent. Il faut parler des politiques. Cette politique, elle est raciste. Et on la dénonce. Et les racistes, je pense que c'est important de nommer.
Mais là, ça veut dire qu'attendez un peu. OK, mais c'est raciste, là. OK, vous maintenez votre point, vous avez le droit. Ça veut dire que la France est raciste, ça veut dire que beaucoup de pays d'Afrique du Nord qui ont des normes sur le voile sont racistes, ça veut dire que beaucoup de pays de Moyen-Orient où les femmes ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent sont racistes. Là, si on prend votre définition, par exemple, une femme qui n'a pas la tchador en Iran s'en va en prison, donc l'Iran est raciste. L'Arabie Saoudite, la femme peut pas se promener en bikini sur la plage, donc ils sont racistes. Il y a au moins 10 à 15 pays d'Europe qui ont des réglementations et des lois sur le voile. Tous ces gens-là sont donc racistes.
Enfin, bien évidemment, toutes ces politiques, c'est raciste. Oui, ce sont racistes.
Alors, il reste quel pays qui n'est pas raciste?
Quand on retire des droits à des personnes, à des citoyens qui sont égaux à d'autres citoyens, et on les cible sur une base religieuse, ethnique, et c'est ça, sur une base raciale, en fait. C'est du racisme. Pourquoi ça s'appelle racisme? Parce qu'il se base sur des races. Et ces
donc,
races,
l'Iran est raciste. Donc, l'Iran est raciste.
L'Iran, je pense, c'est un autre cas.
Si une enseignante veut pas porter de voile, je suis même pas sûr qu'il y a beaucoup d'enseignantes en Iran, mais si là, une femme veut s'habiller comme elle veut en Iran et que l'État lui interdit, donc là, ça devient du racisme.
Mais pourquoi
au Québec, c'est du racisme?
C'est clair que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais l'État n'a pas, en fait, c'est pas à l'État de demander à une femme ce qu'elle doit porter et ne pas porter. Je pense que ça, c'est aussi important à comprendre.
Donc, un homme qui force, admettons dans un cas d'espèce, un homme qui forcerait sa femme à porter le voile, une communauté qui forcerait une femme à porter une voile serait une communauté raciste.
On parle des individus. C'est ça la nuance qu'il faut amener. Le racisme, c'est pas des individus. Ça, c'est des systèmes, c'est des politiques qui fonctionnent pour cibler des groupes.
Mais il peut y avoir des individus racistes. Il peut y avoir des communautés racistes. Il y a des États racistes. Moi, je pense qu'il faut le dénoncer. Alors moi, je prends votre définition. Si vous dites que parce que la CAQ demande à des gens de retirer le voile, c'est raciste, ça veut dire qu'une communauté qui oblige des gens à porter le voile serait raciste également?
Ça dépend, parce que là, on se limite à des personnes. Et le racisme, ajouter une autre nuance aussi, il y a un rapport de pouvoir, en fait. C'est que à travers des politiques, à travers des systèmes qui fonctionnent de cette façon. Je le redis encore une fois, c'est un faux problème. Pourquoi la CAQ? C'est quoi l'objectif? Est-ce que de régler les problèmes des élèves, de garantir, je sais pas, de contribuer à leur réussite scolaire? C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment avec ce genre de projet de loi, qu'est-ce qu'on va faire pour l'école? Si on veut réellement, si c'est le problème de laïcité, on veut laïciser l'école. Je pense qu'il faut vraiment d'abord cesser de financer les écoles privées religieuses, d'une part. Et en plus, pourquoi on le fait? Est-ce qu'il y a eu une plainte contre une enseignante qui a fait ça? Il n'y a aucune plainte. Il n'y a aucune plainte. Pourquoi on insiste à faire
là-dessus,
et à décongédier ces enseignants?
là-dessus, là, ça se peut qu'on se rejoigne parce que moi aussi, quand je regarde le Québec aujourd'hui, juge, policier, policière, enseignant, enseignante, je suis pas certain qu'on est devant un problème réel. Par contre, je vais vous retourner un peu la question. Moi non plus, j'ai pas entendu beaucoup de parents ou d'étudiants se plaindre que, par exemple, il y avait une enseignante voilée. Est-ce que je vais vous suivre là-dedans? Mais je vais vous retourner la question. Si c'est un faux problème, comme vous dites, pourquoi on peut pas demander à certaines femmes, elles sont pas si nombreuses, de retirer leur voile au moment où elles sont en position d'autorité comme juge, policière ou enseignante? Pourquoi ce compromis-là ne pourrait pas être fait au nom de la laïcité par ces femmes-là?
En fait, d'abord, c'est pas un compromis.
Comment vous avez
un compromis?
C'est-à-dire que c'est tout le monde fait des compromis dans la vie. Là. Quand on travaille, on peut pas s'habiller parfois comme on veut, alors on fait des compromis. Alors la question que je vous pose, c'est...
Mais j'ai un droit, en fait. Est-ce que, moi, je retourne la question autrement. Pourquoi on est incapable d'accepter des personnes qui sont un peu différentes? Leur code vestimentaire est différent.
Non, mais on les accepte. Attention, elles sont partout. On les accepte au Québec.
C'est quoi la génération? En fait, juste une question. On veut créer une école où on encourage, en tout cas, pour la mixité sociale dans une école. Qu'est-ce qu'on veut créer comme génération? Une génération qui est capable de vivre en société, qui est capable de vivre avec des personnes qui sont différentes.
Oui.
Est-ce qu'on veut créer juste une école avec des personnes qui se ressemblent? Est-ce qu'on n'est pas capable de laisser les enfants de vivre et voir que ces personnes, ils sont des personnes comme tous les autres, comme les autres personnes? Quelle société on veut construire par la suite?
Mais là, je vous prends au mot. Je trouve ça super intéressant. En passant, je l'ai défendu, le voile, moi, dans la rue, etc., partout. Il y a des employés, des collègues. Puis j'ai dénoncé des gens qui parfois vont trop loin. Mais là, vous me dites, ces gens-là qui portent le voile, pourquoi on laisse pas les jeunes voir que c'est du monde comme tout le monde? Et je vous suis, c'est du monde comme tout le monde. Ils n'ont pas les mêmes choix religieux, tout ça. Mais c'est des gens comme nous. Ben, les gens comme nous, quand ils arrivent dans un milieu d'autorité, si le patron dit, contre cette job-là, il y a un code vestimentaire et tu dois t'y conformer, pourquoi ces gens-là, qui sont comme tout le monde, ne pourraient pas le faire? Pourquoi la musulmane ou le juif ou le sikh pourrait pas dire « j'enlève mon symbole religieux lorsque je suis en situation d'autorité »? J'aimerais vraiment savoir ça parce que on n'est pas toujours en contact avec ces gens-là, mais moi, je suis ouvert au dialogue. Alors, dites-moi pourquoi une musulmane pourrait pas retirer son voile lorsqu'elle enseigne. Pourquoi?
Oui, c'est ça. En fait, un musulman ainsi qu'un juif, le signe religion, pour eux, c'est pas un simple accessoire qu'on peut enlever et le mettre à côté à tout moment. Cette religion se pratique autrement. C'est pas comme, c'est vrai que la religion, les catholiques, par exemple, ils ont le privilège de enlever, en fait, de ne pas forcément porter. Les autres, ils s'expriment, en fait, ils expriment leur religion autrement. Il faut juste aller plus loin que leur religion et les accepter comme ils sont. Je comprends pas pourquoi on veut toujours vraiment leur enlever ce droit de pratiquer leur religion, en fait.
Mais là, au Québec, vous savez qu'on a décidé que la religion, c'est dans la sphère privée. Alors, je répète ma question. Dans la sphère publique en position d'autorité, pourquoi le musulman ne pourrait pas retirer son voile?
Oui, je comprends. Mais ils sont en train de pratiquer.
Moi, je pense qu'elles sont capables. Moi, j'ai tellement confiance envers les musulmans, musulmanes. Je considère que c'est des Québécois, Québécoises aussi brillants que nous. Et moi, faire preuve d'intelligence dans la vie, c'est faire preuve de compromis. Et je pense que comme la religion chrétienne, ici au Québec, on avait des religieuses dans le temps, tout ça. Mais ces gens-là ont évolué, ont fait des compromis. Il y a encore des gens qui ont la foi, mais ça se pratique dans la sphère privée et non plus au Parlement ou à l'école ou en situation d'autorité. Je crois que les musulmanes québécoises peuvent faire ça, moi. Est-ce que c'est raciste de penser que les musulmanes québécoises peuvent faire un compromis et continuer à enseigner sans voile?
Mais en fait, comme je viens de l'expliquer, ces religions s'expriment autrement. Je pense qu'il faut aussi respecter leur façon d'exprimer leur religion. Et c'est là où aussi un État qui se respecte, c'est aussi un État qui respecte les minorités et qui respecte leur façon d'exprimer leur culture ou leur religion. En fait, cette religion s'exprime autrement. Le sikh ne peut pas enlever son turban à tout moment. Et c'est ça, les choses. Le voile ne peut pas s'enlever à tout moment. Et moi, je trouve que c'est encore une fois un faux problème de se limiter uniquement à des signes religieux. Si on veut parler de neutralité, on peut vraiment... il faut ouvrir la porte sur toutes les neutralités. Là, on parle, par exemple, de la neutralité religieuse d'un juge, comment il va être neutre s'il porte son signe religieux. De toute façon, c'est la même personne. Qu'elle soit voilée ou non, c'est toujours la même personne. C'est elle qui va juger. C'est elle, un monsieur qui va porter un kippa. C'est la même personne. C'est pas quand il va enlever, il va être plus neutre qu'avant, en fait. Je pense que c'est des apparences. Il faut aller au-delà des apparences, oui, et juger sur des compétences. Ça, il y a d'autres mécanismes, certainement, pour remettre en question certains comportements. Il y a des mécanismes pour remettre en question.
Je suis d'accord que c'est l'intérieur. Ça, là-dessus, je vous rejoins tellement. Là, c'est l'intérieur de la personne qui compte et non pas l'aspect extérieur. C'est pourquoi la musulmane qui retire son voile pour continuer à enseigner, c'est encore une très bonne musulmane et une très bonne personne. Si vous me dites qu'il y a une religion en quelque part qui dit le contraire, là... Je pense qu'au niveau des valeurs, on s'entendra pas. Moi, je pense que oui, le juif sans sa kippa est encore un très bon juif. Il peut être un juge, un policier, puis un enseignant sans sa kippa. J'en suis convaincu, vous l'avez dit, c'est à l'intérieur que ça se passe, c'est pas une question d'apparence. Alors, le reste, quand t'es en position d'autorité, les Québécois viennent de voter qu'on enlève les symboles religieux ostentatoires pour passer un message de laïcité. Je ne pense
mais
pas
en fait,
que
c'est
ça.
Il faut... ce terme laïcité, vraiment, on le fait dire des choses parfois que c'est pas vraiment de laïcité. L'État, oui, dans un contexte pluraliste et tout, on est tout à fait d'accord. C'est important d'avoir un État laïque. Un État laïque, c'est important. Mais l'État laïque, c'est en tant qu'institution qui doit être laïque. Ça veut dire qu'il ne s'identifie à aucune religion. Et c'est le cas aujourd'hui. Mais il n'est pas les individus. L'État a aussi la responsabilité de traiter et de protéger toutes les personnes et de les traiter de façon égale, qu'ils soient croyants ou non croyants. Pourquoi on fait des lois qui ciblent des religions?
J'ai beaucoup aimé le débat. Madame Chebbi, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. On va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. Merci d'avoir été là. Merci. 8h23. Safa Chebbi est porte-parole de la manifestation anti-racisme de dimanche, où plusieurs pancartes et manifestants s'en sont pris à François Legault et la CAQ. Je maintiens, je veux pas tout redire ce que j'ai dit. Pour moi, ça n'a rien à voir avec du racisme. Par contre, on a le droit d'être contre, là. On peut marcher contre la CAQ, on peut marcher contre l'interdiction des signes religieux. On est dans une société démocratique. Mais moi, c'est le mélange des deux, là. Parce que là, c'est du racisme de demander à des gens d'enlever des voiles lorsqu'ils sont à l'école. Je veux dire, là, il y a énormément de pays racistes, dont en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, il y a beaucoup de pays qui ont des lois sur le voile et autres signes religieux. Est-ce qu'ils sont racistes? Là, on s'entend pas sur la définition. Le reste, je pense que c'est une question de compromis. Et moi, je trouve que on juge sévèrement certains musulmans et juifs en disant « Ces gens-là peuvent pas enlever leur voile, ils peuvent pas enlever leur kippa. » Mais oui, mais c'est donc bien condescendant envers eux. Vous pensez que c'est des radicaux, que c'est des... Moi, je pense qu'ils peuvent le faire. On est capable d'enlever, puis ça changera rien. On leur demande ça. Si vraiment, là, pour eux, c'est une question de vie ou de mort, ben ils vont devoir eux-mêmes renoncer à ces fonctions-là. Ils ne seront pas congédiés. Ils vont renoncer à un métier parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la volonté de la majorité de faire de ces activités-là, enseignement, policier, juge, des activités laïques. Le reste, à l'intérieur, c'est comme ils veulent. Moi, j'ai confiance en eux. Je suis convaincu qu'ils sont capables de faire ça.
Mais la façon que la manif a été faite en fin de semaine, en comparant la CAQ au Ku Klux Klan, clairement, là, il y a eu des débordements. Mais ça veut pas dire, par exemple, que sur le fond du débat, on est obligé d'être d'accord avec la CAQ.
Non, ben regarde, je peux débattre avec elle. D'ailleurs, moi, j'ai changé sur un point. Et je pense que la CAQ va annoncer ça dans les prochains jours. Je leur conseille sincèrement. Congédiez personne. Reculez là-dessus. Faites une clause grand-père.
Ah oui, ça,
on va dire pourquoi. Parce qu'il n'y en a pas. Ça ne change rien. Là, tout le monde est sur les congédiements. On va congédier une enseignante. Elle est là depuis... Il n'y en a pas. Il n'y en a à peu près pas. Laissez les gens en place actuellement. Je déteste qu'on change les règles du jeu pendant qu'on est sur la glace. La game est commencée. Pour les prochains, ça va marcher de même. Que la CAQ maintienne l'interdiction des signes religieux à tous les niveaux d'autorité. Pas question de reculer. sur les congédiements, prenez acte du fait qu'il n'y a actuellement aucun policier, policière, des juges, il n'y en a pas. Le reste, gardien de prison, il n'y en a pas. Des plaintes, il n'y en a pas. Il doit y avoir quelques enseignantes voilées à Montréal.
Ouais.
Si on les congédie, ça envoie un mauvais message. Tu sais, la personne, là, c'est sûr que ça va chialer, ça va... Garde, la CAQ pourrait faire preuve d'un peu de sagesse. C'est pas un recul, c'est un compromis. Ceux qui sont déjà là, vous allez pouvoir poursuivre votre carrière. Ça changera pas le visage de l'école québécoise ou de la police québécoise ou de la magistrature. Voyons donc, pensez-y. Mettez personne dehors. Non. Dehors, c'est un geste un peu violent. C'est comme il y a une rupture, c'est « out ». Bon, la personne pourra enlever son signe religieux, mais là, visiblement, on lui a déjà permis. Elle est déjà là. La fille, elle veut garder son voile, puis elle est enseignante. Elle a sa job. Avant, c'était permis. Ne mettez personne dehors. Annoncez ça rapidement. Pour le reste, les nouveaux venus, lâchez pas. La population du Québec vous supporte. J'en suis convaincu. Vous avez le droit. Il y a au moins, je pense, c'est 20 à 30 pays en Occident et dans le monde qui l'ont fait, là. C'est pas des racistes.
Puis la clause grand-père, moi, c'est exactement ça mon point la semaine passée quand on a parlé, parce que de choisir un métier en connaissance de cause, c'est une chose. J'ai envie d'être enseignante dans la vie, mais je suis musulmane et moi, dans mes valeurs, je n'ai pas envie de retirer mon voile. Alors, je choisis en toute conscience de cause de ne pas aller dans ce métier-là. Je vais aller dans un autre corps de métier où je vais pouvoir le porter. Ça, c'est une cause. C'est une chose. Tu as pris la décision toi-même en sachant ce qui t'attendait. Ouais. Là, ça fait 20 ans que tu pratiques un métier. T'es bonne là-dedans. T'es aimée de tes élèves. Il n'y a jamais eu aucune plainte à ton endroit, dans ton établissement. Et demain matin, tu es obligé de quitter ton emploi parce que tu n'es pas d'accord avec le fait que l'État te dicte quoi faire par rapport à ton voile. Moi, je trouve ça complètement. Puis d'ailleurs, c'est la position du Parti québécois parce que Catherine Fournier, tout le monde en parle. C'est ça qu'elle a dit lorsqu'elle a discuté avec Geneviève.
Alors, la CAQ pourrait se joindre au PQ. Ça ferait une plus grosse coalition. T'sais, ça ferait encore plus consensus. Puis on enlève les congédiements. Surtout qu'on n'a jamais congédié un prof pour incompétence en 20 ans au Québec. Puis on va mettre dehors du monde parce qu'ils ont des signes religieux. Pensez-y.
Mais non, là.
On n'a jamais mis un dehors pour incompétence. Jamais. Plein de profs incompétents qui enseignent. Là, la musulmane compétente, mettons qu'elle l'est, puis j'y donne, je suis sûr qu'elle l'est, comme bien des profs.
Oui.
On va en mettre dehors, ou le juif avec son kippa à l'université. Laissons-le là. Laissons-le là, ils sont déjà là. Ils sont déjà à l'intérieur, ils travaillent. Elisabeth l'a bien dit, ils ont choisi ce métier-là à l'époque où les règles étaient différentes. Laissez les gens en place. De toute façon, il n'y en a pas. En passant, il n'y en a pas. Fait que c'est là-dessus que je rejoins un peu Mme Chebi. Pour le reste, que la CAQ maintienne son point. C'est n'importe quoi du racisme, là. J'ai énoncé. C'est n'importe quoi, c'est pas ça du tout.
Là, on n'aura pas le temps de lire des textos, mais je veux dire, on a eu plusieurs textos depuis tantôt. Et ce que je remarque,
là,
par exemple...
On n'a jamais le temps.
OK, mais ce que je remarque dans les textos, c'est que le malaise vient vraiment avec le fait que de porter le voile du côté des musulmans. Il n'y a pas de malaise avec le crucifix puis un juge qui porte le crucifix. Ça semble vraiment être dirigé à l'endroit des musulmans.
Mais ça devrait ça veut dire, pas, là. Moi, si on veut être logique, non. C'est pas une loi anti-musulman, ça, là. Si ça l'était, je serais contre. On peut pas cibler, là. C'est une loi anti-signe religieux en position d'autorité. Faut que ça soit ça que vous défendiez, là. C'est ça qu'on veut pas avoir. Et oui, ça touche des musulmans, mais ça peut toucher des chrétiens, des juifs, des orthodoxes, des... Bon, la loi, elle est comme ça.
Bon, plusieurs personnes, il y a quelqu'un qui dit, ça voudrait dire qu'une musulmane qui porte pas le voile est en état de péché. Quelqu'un d'autre qui dit, elle a tort de dire que le voile fait partie de la religion musulmane. Le Coran n'exige pas cela.
Ben, je sais, mais pour certains, ça l'est. Moi, je veux pas rentrer là-dedans. C'est une question de croyance. Je sais que plusieurs disent que c'est pas dans le Coran, mais il y a des musulmanes qui choisissent de porter le voile. Si elle est à visage découvert et qu'elle n'est pas en position d'autorité, on se doit de tolérer ça. Burqa, niqab, je suis contre. Position d'autorité, je suis contre. Faut la mettre à quelque part, la limite, un moment donné. Il faut avoir des arguments. Si t'as pas d'arguments, c'est juste parce que t'aimes pas ça. Je veux pas de voile parce que j'aime pas ça. Là, ça devient un peu, peut-être pas du racisme, mais à tout le moins de l'islamophobie. Assurément. Alors, il y a des choses qu'on aime moins dans la société, on doit tolérer. En position d'autorité, c'est non.
Quelqu'un d'autre dit, ça marche juste d'un bord leur affaire à croire qu'un musulman voudrait que son enfant ait un prof juif ou catholique qui s'affiche. Tu vois, ça, je suis complètement contre ce type de commentaire-là. T'en as peut-être des musulmans qui seraient contre que leur enfant ait un professeur qui pratique une autre religion, mais je suis convaincu que la grande majorité des musulmans ici au Québec n'ont aucun problème que le prof soit catholique ou juif.
Non, mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit, il y en a peut-être. Mais il y a raison. C'est comme dans l'exemple que je donne. Moi aussi, j'essaie de faire attention à mes exemples, pas juste prendre justement d'un bord puis de l'autre. Est-ce qu'un musulman accepterait d'être jugé au palais de justice par un juif qui a une kippa? Est-ce possible que son avocat dise, on demande un changement? Parce qu'on pense que ça sera pas juste et équitable.
Mais
tu peux leur virer de bord.
Mais ça, c'est position de coercition. Faut faire la différence entre position de coercition où tu as une influence vraiment sur l'avenir d'une personne et position d'autorité là-dedans, enseignant entre. Mais dans Bouchard-Taylor, en fait, il parlait de position de coercition.
Non, la CAQ
a ajouté. Les enseignements étaient pas là.
La CAQ a ajouté Bouchard Taylor plus les enseignants.
Exactement, c'est ça. Exactement. Et cette personne-là parlait des enseignants. Moi, je suis convaincue que la grande majorité des musulmans, s'il y en a qui nous écoutent ce matin, ils nous appelleraient et diraient hey, le professeur à mon fils ou à ma fille peut être catholique, je m'en fous tant que c'est un bon enseignant. Là,
oui, mais il y en a aussi qui pourraient avoir des réserves.
Peut-être, effectivement.
Comme des gens pourraient avoir des réserves d'avoir un prof qui enseigne l'éducation sexuelle avec une croix catholique dans le cou. Parce qu'on connaît les positions de l'Église sur la sexualité, qui ne sont pas partagées par l'ensemble des Québécois et Québécoises. Alors, ça serait le même malaise, Elisabeth. On pourrait dire, le prof pourrait dire, moi, je sais pas, moi, là, votre enseignant en secondaire 2 avec sa grosse croix, puis à la limite, pis ses signes religieux, je suis pas sûr qu'il va être neutre, mais que ça soit le temps de parler d'éducation sexuelle.
Et ensuite, bon, quelqu'un nous dit, enlève-moi le crucifix du Parlement et de tous les hôpitaux à ce moment-là, si on parle de neutralité de l'État. Ensuite, quelqu'un dit je veux pas que la personne se voile parce que pour moi, c'est un symbole d'infériorité, mais ça, c'est une question de perception aussi, là. Fait que, mais le mal, je te dis, tu vas lire les textos, là, on parle vraiment, c'est ciblé envers le voile. On parle vraiment de la religion musulmane. Parce qu'un professeur qui porte le crucifix, il n'y a personne qui nous dit, moi, j'accepterai jamais ça. Là. C'est vraiment, vraiment dirigé vers le voile.
Parce qu'il y en a plus, on les voit plus. Là.
Parce qu'on les voit plus.
Mais le principe, si on défend le principe, c'est la même affaire.
Exactement.
C'est toutes les religions qui doivent être incluses là-dedans. Et c'est ce que fait la CAQ, là.
Oui.
Au niveau de la CAQ, oui, c'est ça le projet de loi. 8h32.
Bouchard en parle, présenté par Matelas Dauphin et sa vente prix d'entrepôt. Payez le prix entrepôt sur tous nos matelas et payez en 12 versements, plus taxes payées, dans tous les Matelas Dauphin.
Sylvain Bouchard. FM 93.
Jusqu'à 9h30, vous écoutez Bouchard en parle.
8h32 dans le trafic, Vez.
Très compliqué pour accéder à la Rive-Nord par les deux ponts maintenant. Il y a une voiture en panne à la sortie du pont La Porte. C'est sur l'accotement de droite. Ça gêne un peu moins, mais ça gêne quand même assez pour provoquer des longs ralentissements du côté de la Rive-Sud. Je vous rappelle qu'il y a toujours seul du côté du pont de Québec, à la sortie également, il y a un accrochage qui fait en sorte que ça bloque une voie sur deux. Alors, sur la Rive-Sud, les files d'attente sont infinies. Ça commence à la route Lagueux d'un côté et je dirais à Lévis-Centreville de l'autre pour accéder au pont, aux deux ponts en direction de la Rive-Nord. Et sur la Rive-Nord, ce sont les ralentissements habituels que vous connaissez.
La circulation, présentée par la grande liquidation en prolongation de Paquet Nissan. Jusqu'à 3 000 $ de rabais sur le VUS Qashqai ou 0% sur 36 mois. Chez Paquet Nissan à Lévis.
Plusieurs pharmaciens de Pharmaprix ont été mis à l'amende pour 2,6 millions de dollars. Ils auraient touché des avantages illégaux de fournisseurs de médicaments. Selon le Journal de Québec, la Régie de l'assurance maladie du Québec a imposé ses sanctions à Pharmaprix en septembre 2016. Les 24 pharmaciens ont contesté à plusieurs reprises la décision en cours. Et la DPJ est encore condamnée pour avoir abandonné une enfant au sein d'une famille toxique et dysfonctionnelle durant 6 ans. La Cour du Québec a jugé que la DPJ a été coupable de négligence institutionnelle. Le Soleil avance que la situation de la petite était déjà dans un processus d'enquête, mais que celui-ci s'étirait. La juge Marie-Josée Ménard, qui a déjà sanctionné la DPJ dans le passé, a affirmé que cette situation était un échec lamentable.
Le Canadien se prépare à disputer son prochain match. Ce sera le premier à domicile. C'est jeudi contre les Kings de Los Angeles. Et au football, victoire de la Nouvelle-Orléans 43-19 sur Washington. Drew Brees des Saints a battu le record pour le plus de verges par la passe en carrière.
Et il pleut ce matin à Québec. Il va pleuvoir comme ça jusqu'à jeudi inclusivement. Pour aujourd'hui, c'est un maximum de 21 degrés qui est prévu. Pour demain, mercredi, maximum de 8 et 12 pour jeudi. À Québec, il fait 8.
La météo, une présentation de Volvo de Québec. Retrouvez le bonheur de conduire à bord d'une Volvo XC90, le VUS le plus primé de l'histoire, à un taux annuel de 2,9%. Détails chez Volvo de Québec.
FM 93, ça me parle.
Continuez, ça fait été nombreux à réagir, on va vous lire, on va prendre le temps, ça a rentré beaucoup, 25-226, sur l'entrevue qu'on vient de faire. Pour l'instant, je vous parle de Jean Lelièvre, syndic. La semaine commence, tough, la pluie, c'est gris, etc. Il y en a que c'est plus dur parce que vous avez des craintes financières majeures. Vous êtes endetté. Je sais, souvent, on entend le discours, hein, la surconsommation, ça n'a pas de bon sens, les gens font pas attention. Là, moi, je suis pas dans le blanc, mais le jugement, je suis dans les solutions. Avec Jean Lelièvre, syndic. C'est ça, syndic égale faillite. Non. Ben des fois, ça arrive, là. Mais la majorité du temps, c'est pas ça. La majorité des clients qui viennent voir Jean Lelièvre et son équipe ont réussi à trouver de quoi pour vous sortir la tête de l'eau. Proposition de consommateur, par exemple. J'ai des cas, je me suis fait donner des cas précis, là. Des gens qui avaient des... Ça leur coûtait des milliers de dollars par mois. Rembourser les cartes de crédit, puis les banques, puis les prêts. Puis on a réussi à s'entendre, à négocier un nouveau deal. On fait ça pour vous, là. Pour que ça revienne, le gars, 60 mois, des fois 3, 4, 5 fois moins cher. Dans certains cas, là, Ça dépend des cas, je ne veux pas faire de fausses promesses. Allez rencontrer les experts de Jean Lelièvre Syndic.
On le sait maintenant, on peut nourrir une famille de 3 pour 75$ par semaine. Mais qui s'occupe des familles de 8? Encore une fois, c'est Option Subaru. Grâce au tout nouveau VUS grand format, le Ascent, disponible à partir de 37 910 $. Le troisième lien s'en vient. Mais pour le petit 10 ans que ça va prendre, invitez donc tout le voisinage à s'amuser dans le trafic grâce au nouveau Ascent. Slogan.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru.
Le meilleur de la Belgique est sur Grande Allée, au tout nouveau Belga.
Au Belga, vous dégustez d'authentiques bières belges, dont la meilleure bière au monde, toute catégorie au World Beer Awards, servie à la température parfaite avec une mousse parfaite dans la plus pure tradition belge. Au Belga, c'est votre bière que vous accompagnez d'un repas. Découvrez la carte d'inspiration belge avec les fameuses moules et frites, la cuisse de lapin farcie et la poutine flamande.
Le tout nouveau Belga, le meilleur de la Belgique sur Grande Allée.
En 2019, Sainte-Foy Hyundai déménage enfin dans une bâtisse flambant neuve qui, contrairement à certains buildings de Québec, va être remplie de monde et d'événements. En attendant, ben, continuez à tester vos suspensions sur la rue Dalton et profitez du décompte final liquidation 2018 pour vous sauver avec un Kona en location à 50$ par semaine ou des pneus d'hiver gratuits avec l'Accent ou l'Elantra.
Le meilleur reste à venir chez Sainte-Foy Hyundai, mais les deals, eux autres, sont maintenant.
Sainte-Foy Hyundai, on t'en donne moins!
Moins de troubles, moins de paiements!